Jacques le fataliste et son maître. Comment s'étaient-ils rencontrés? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelaient-ils? Que vous importe. D'où venaient-ils? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils? Est-ce que l'on sait où l'on va? Que disaient-ils? Oh, le maître ne disait rien, et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal, ici-bas, était écrit là-haut. Le maître. C'est un grand mot que cela. Jacques. Mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet. Et il avait raison. Après une courte pause, Jacques s'écria. Que le diable emporte le cabaretier et son cabaret. Pourquoi donner au diable son prochain, cela n'est pas chrétien. C'est que, tandis que je m'enivre de son mauvais vin, j'oublie de mener vos chevaux à l'abreuvoir. Mon père s'en aperçoit, il se fâche, je hoche de la tête, il prend un bâton et m'en frotte un peu durement les épaules. Un régiment passait pour aller au camp de Fontenoy, de dépit je m'enrôle. Nous arrivons, la bataille se donne. Et tu reçois la balle à ton adresse. Vous l'avez deviné, un coup de feu au genou. Et Dieu sait les bonnes et mauvaises aventures amenées par ce coup de feu. Elles ne tiennent ni plus ni moins que les chaînons d'une gourmette. Sans ce coup de feu, par exemple, je crois que je n'aurais été amoureux de ma vie ni boiteux. Ah, tu as donc été amoureux. Ah, si je l'ai été. Et cela par un coup de feu. Par un coup de feu. Tu m'en as jamais dit un mot. Je le crois bien. Et pourquoi cela? C'est que cela ne pouvait être dit ni plus tôt ni plus tard. Et le moment d'apprendre ses amours est-il venu? Qui le sait? À tout hasard, commence toujours. Jacques commença l'histoire de ses amours. C'était l'après-dîner, il faisait un temps lourd, son maître s'endormit. La nuit les surprit au milieu des champs. Les voilà fourvoyés. Voilà le maître dans une colère terrible et tombant à grands coups de fouet sur son valet, et le pauvre diable disant à chaque coup « Celui-là était apparemment encore écrit là-haut. » Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, et qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous faire attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des amours de Jacques, en le séparant de son maître et en leur faisant courir à chacun tous les hasards qu'il me plairait. Qu'est-ce qui m'empêcherait de marier le maître et de le faire cocu, d'embarquer Jacques pour les îles, d'y conduire son maître, de les ramener tous les deux en France sur le même vaisseau? Qu'il est facile de faire des comptes. Mais ils en seront quittes l'un et l'autre pour une mauvaise nuit, et pour vous, ce délai. L'aube du jour parut. Les voilà remontés sur leurs bêtes et poursuivant leur chemin. Et où allaient-ils? Voilà la seconde fois que vous me faites cette question, et la seconde fois que je vous réponds, qu'est-ce que cela vous fait? Si j'entame le sujet de leur voyage, adieu les amours de Jacques. Ils allèrent quelque temps en silence. Lorsque chacun fut un peu remis de son chagrin, le maître dit à son valet, « Eh bien, Jacques, où en étions-nous de tes amours ?»« Nous en étions, je crois, à la déroute de l'armée ennemie. On se sauve, on est poursuivi, chacun pense à soi. Je reste sur le champ de bataille, enseveli sous le nombre des morts et des blessés qui fut prodigieux. Le lendemain, on me jeta avec une douzaine d'autres sur une charrette pour être conduit à un de nos hôpitaux. « Ah, monsieur !» Je crois pas qu'il y ait une blessure plus cruelle que celle du genou. Allons donc, Jacques, tu te moques? Non, par Dieu, monsieur, je ne me moque pas. Il y a là je ne sais combien d'os de tendons et bien d'autres choses qui s'appellent je ne sais comment. Une espèce de paysan qui les suivait avec une fille qu'il portait en croupe et qui les avait écoutés, prit la parole et dit « Monsieur a raison !» On ne savait à qui ce monsieur était adressé, mais il fut mal pris par Jacques et par son maître, et Jacques dit à cet interlocuteur indiscret, De quoi te mêles-tu? Je me mêle de mon métier, je suis chirurgien à votre service, et je vais vous démontrer. La femme qu'il portait en croupe lui disait: Monsieur le docteur, passons notre chemin, laissons ces messieurs qui n'aiment plus qu'on leur démontre. Non, lui répondit le chirurgien, je vais leur démontrer et leur démontrerai. Et tout en se retournant pour démontrer, il poussa sa compagne, lui fait perdre l'équilibre et la jette à terre, un pied pris dans la basque de son habit et les cotillons renversés sur sa tête. Jacques descend, dégage le pied de cette pauvre créature et lui rabaisse ses jupons. Je ne sais s'il commença par rabaisser les jupons ou par dégager le pied, mais à juger de l'état de cette femme par ses cris, elle s'était grièvement blessée. Et le maître de Jacques disait au chirurgien: voilà ce que c'est que de démontrer. Et le chirurgien: voilà ce que c'est de ne vouloir pas qu'on démontre. Et Jacques, à la femme tombée ou renversée: consolez-vous, ma bonne. Il n'y a ni de votre faute, ni de la faute de monsieur le docteur, ni de la mienne, ni de celle de mon maître. C'est qu'il était écrit là-haut qu'aujourd'hui, sur ce chemin, à l'heure qu'il est, monsieur le docteur serait un bavard, que mon maître et moi serions de bourrus, et que vous auriez une contusion à la tête et qu'on vous verrait le cul. Que cette aventure ne deviendrait-elle pas entre mes mains s'il me prenait en fantaisie de vous désespérer? Je donnerais de l'importance à cette femme, j'en ferais la nièce d'un curé du village voisin, j'ameuterais les paysans de ce village. Je me préparerai des combats et des amours, car enfin, cette paysanne était belle sous le linge. Jacques et son maître s'en étaient aperçus. L'amour n'a pas toujours attendu une occasion aussi séduisante. Pourquoi Jacques ne deviendrait-il pas amoureux une seconde fois? Pourquoi ne serait-il pas une seconde fois le rival et même le rival préféré de son maître? Est-ce que le cas lui était déjà arrivé? Toujours des questions. Vous ne voulez donc pas que Jacques continue le récit de ses amours? Une bonne fois pour toutes, expliquez-vous. Cela vous fera-t-il, cela ne vous fera-t-il pas plaisir? Si cela vous fera plaisir, remettons la paysanne en croupe derrière son conducteur, laissons-les aller et revenons à nos deux voyageurs. Cette fois-ci, ce fut Jacques qui prit la parole et qui dit à son maître: voilà le train du monde. Vous qui n'avez été blessé de votre vie et qui ne savez ce que c'est qu'un coup de feu au genou, vous me soutenez à moi qui ai le genou fracassé et qui boite depuis 20 ans.
Le maître: tu pourrais avoir raison, mais ce chirurgien impertinent est cause que te voilà encore sur une charrette avec tes camarades, loin de l'hôpital, loin de ta guérison et loin de devenir amoureux. Quoi qu'il vous plaise d'en penser, la douleur de mon genou était excessive. Elle s'accroissait encore par la dureté de la voiture, par l'inégalité des chemins, et à chaque chaos, je poussais un cri aigu.
Parce qu'il était écrit là-haut que tu crierais?
Assurément, je perdais tout mon sang, et j'étais un homme mort si notre charrette, la dernière de la ligne, ne se fût arrêtée devant une chaumière. Là, je demande à descendre. On me met à terre. Une jeune femme, qui était debout à la porte de la chaumière, rentra chez elle et en sortit presque aussitôt avec un verre et une bouteille de vin. J'en bus un ou deux coups à la hâte. Les charrettes qui précédaient la nôtre défilèrent. On se disposait à me rejeter parmi mes camarades lorsque, m'attachant fortement aux vêtements de cette femme et à tout ce qui était autour de moi, je protestais que je ne remonterais pas, et que mourir pour mourir, j'aimais mieux que ce fût à l'endroit où j'étais qu'à 2 lieues plus loin. En achevant ces mots, je tombai en défaillance. Au sortir de cet état, je me trouvais déshabillé et couché dans un lit qui occupait un des coins de la chaumière, ayant autour de moi un paysan, le maître du lieu, sa femme, la même qui m'avait secouru, et quelques petits enfants. La femme avait trempé le coin de son tablier dans du vinaigre, et m'en frottait le nez et les tempes. Ah, malheureux, un coquin, infâme, je te vois arriver. Mon maître, je crois que vous ne voyez rien. N'est-ce pas de cette femme que tu vas devenir amoureux? Et quand je serai devenu amoureux d'elle, qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Est-ce qu'on est maître de devenir ou de ne pas devenir amoureux? Et quand on l'est, est-on maître d'agir comme si on ne l'était pas? Si cela eût été écrit là-haut, tout ce que vous vous disposez à me dire, je me le serais dit, je me serais souffleté, je me serais cogné la tête contre le mur, je me serais arraché les cheveux. Il n'en aurait été ni plus ni moins, et mon bienfaiteur eût été cocu. Mais en raisonnant à ta façon, il n'y a point de crime qu'on ne commis sans remords. Hein, c'est que vous m'objectez là, m'a plus d'une fois chiffonné la cervelle. Mais avec tout cela, malgré que j'en ai, j'en reviens toujours au mot de mon capitaine. Tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas est écrit là-haut. Savez-vous, monsieur, quel moyen d'effacer cette écriture? Puis-je n'être pas moi? Et étant moi, puis-je faire autrement que moi? Puis-je être moi en un autre? Et depuis que je suis au monde, y a-t-il eu un seul instant où cela n'ait été vrai? Prêchez tant qu'il vous plaira, vos raisons seront peut-être bonnes, mais s'il est écrit en moi ou là-haut que je les trouverai mauvaises, que voulez-vous que j'y fasse?
Je rêve à une chose, c'est si ton bienfaiteur eût été cocu parce qu'il était écrit là-haut, ou si cela était écrit là-haut parce que tu ferais cocu ton bienfaiteur.
Tous les deux étaient écrits l'un à côté de l'autre. Tout a été écrit à la fois. C'est comme un grand rouleau qu'on déploie petit à petit.
Vous concevez, lecteur, jusqu'où je pourrais pousser cette conversation sur un sujet dont on a tant parlé, tant écrit depuis 2000 ans, sans en être d'un pas plus avancé. Si vous me savez peu de gré de ce que je vous dis, sachez m'en beaucoup de ce que je ne vous dis pas. Tandis que nos deux théologiens disputaient sans s'entendre, comme il peut arriver en théologie, la nuit s'approchait. Ils traversaient une contrée peu sûre en tout temps, et qu'il était bien moins encore alors que la mauvaise administration et la misère avaient multiplié sans fin le nombre des malfaiteurs. Ils s'arrêtèrent dans la plus misérable des auberges. On leur dressa deux lits de sangle dans une chambre fermée de cloisons entr'ouvertes de tous les côtés. Ils demandèrent à souper. On leur apporta de l'eau de mare, du pain noir et du vin tourné. L'hôte, l'hôtesse, les enfants, les valets, tout avait l'air sinistre. Ils entendaient à côté d'eux les rires immodérés et la joie tumultueuse d'une douzaine de brigands qui les avaient précédés et qui s'étaient emparés de toutes les provisions. Jacques était assez tranquille. Il s'en fallait beaucoup que son maître le fût autant. Celui-ci promenait son souci de long en large, tandis que son valet dévorait quelques morceaux de pain noir et avalait en grimaçant quelques verres de mauvais vin. Ils en étaient là lorsqu'ils entendirent frapper à leur porte. C'était un valet que ses insolents et dangereux voisins avaient contraint d'apporter à nos deux voyageurs, sur une de leurs assiettes, tous les os d'une volaille qu'ils avaient mangée. Jacques, indigné, prend les pistolets de son maître.
« Où vas-tu? Laissez-moi faire! Où vas-tu, te dis-je? Mettre à la raison cette canaille! Sais-tu qu'ils sont une douzaine? Fussent-ils sans, le nombre n'y fait rien, s'il est écrit là-haut qu'ils ne sont pas assez. Oh, que le diable t'emporte avec ton impertinent dicton !» Jacques s'échappe des mains de son maître, entre dans la chambre de ses coupe-jarrets, un pistolet armé dans chaque main. « Vite, qu'on se couche !» leur dit-il. « Le premier qui remue, je lui brûle la cervelle !» Jacques avait l'air et le ton si vrai que ces coquins, qui prisaient autant la vie que d'honnêtes gens, se lèvent de table sans souffler mot, se déshabillent et se couchent. Son maître, incertain sur la manière dont cette aventure finirait, l'attendait en tremblant. Jacques rentra, chargé des dépouilles de ses gens. qui s'en était emparé pour qu'ils ne fussent pas tentés de se relever. Il avait éteint leur lumière et fermé à double tour leur porte dont il tenait la clé avec un de ses pistolets. « À présent, monsieur, dit-il à son maître, nous n'avons plus qu'à nous barricader en poussant nos lits contre cette porte et à dormir paisiblement. » Et il se mit en devoir de pousser les lits, racontant froidement et succinctement à son maître le détail de cette expédition. « Jacques, quel diable d'homme es-tu ? Tu crois... »« Je ne crois ni ne décrois. Mais s'ils avaient refusé de se coucher ?»«
Cela était impossible. »
« Pourquoi ?»«
Parce qu'ils ne l'ont pas fait. »«
S'ils se relevaient ?»«
Tant pis, ou tant mieux. » »«
Mais si... »«
Et si la mer bouillait, il y aurait, comme on dit, bien des poissons de cuit. »«
Que diable, monsieur, tout à l'heure. Vous avez cru que je courais un grand danger, et rien n'était plus faux. À présent, vous vous croyez en grand danger. » Et rien peut-être n'est encore plus faux. Tous dans cette maison, nous avons peur les uns des autres, ce qui prouve que nous sommes tous des sots. Et tout en discutant ainsi, le voilà déshabillé, couché et endormi. Son maître, en mangeant à son tour un morceau de pain noir et buvant un coup de mauvais vin, prêtait l'oreille autour de lui, regardait Jacques qui ronflait et disait « Quel diable d'homme est-ce là ?» À l'exemple de son valet, le maître s'étendit ainsi aussi sur son grabat, mais n'y dormit pas de même. Dès la pointe du jour, Jacques sentit une main qui le poussait. C'était celle de son maître qui l'appelait à voix basse. « Jacques, Jacques, qu'est-ce ? Il fait jour. Cela se peut. Lève-toi donc. Pourquoi ? Pour sortir d'ici au plus vite. Mais pourquoi ?
Parce que nous y sommes mal. Et qui le sait ? Et si nous serons mieux ailleurs ?
Jacques !
Eh bien, Jacques, Jacques, et quel diable d'homme êtes-vous ?
Quel diable d'homme es-tu, Jacques, mon ami, je t'en prie ?
Jacques se frotta les yeux, bâilla à plusieurs reprises, étendit les bras, se leva, s'habilla sans se presser, repoussa les lits, sortit de la chambre, descendit, alla à l'écurie, sella et brida les chevaux, éveilla l'hôte qui dormait encore, paya la dépense, garda la clé des deux chambres, et voilà nos gens partis. Le maître voulait s'éloigner au grand trot, Jacques voulait aller le pas, et toujours d'après son système.
Lorsqu'ils firent à une assez grande distance de leur triste gîte, le maître, entendant quelque chose qui résonnait dans la poche de Jacques, lui demanda ce que c'était. Jacques lui dit que c'était les deux clés des chambres. « Et pourquoi ne les avoir pas rendues ?»«
C'est qu'il faudra enfoncer deux portes, celles de nos voisins, pour les tirer de leur prison, la nôtre pour leur délivrer leurs vêtements, et que cela nous donnera du temps. »«
Fort bien, Jacques, mais pourquoi gagner du temps ?»
Pourquoi ? Ma foi, j'en sais rien.
Et si tu veux gagner du temps, pourquoi aller au petit pas comme tu fais ?
C'est que, faute de savoir ce qui est écrit là-haut, on ne sait ni ce qu'on veut, ni ce qu'on fait, et qu'on suit sa fantaisie qu'on appelle raison, ou sa raison qui n'est souvent qu'une dangereuse fantaisie qui tourne tantôt bien, tantôt mal.
Pourrais-tu me dire ce que c'est qu'un fou et ce que c'est qu'un sage?
Pourquoi pas? Un fou, attendez, c'est un homme malheureux, et par conséquent, un homme heureux et sage.
Et qu'est-ce qu'un homme malheureux ou malheureux?
Oh, pour celui-ci, il est aisé. Un homme malheureux est celui dont le bonheur est écrit là-haut, et par conséquent, celui dont le malheur est écrit là-haut est un homme malheureux.
Et qu'est-ce qui a écrit là-haut? Le bonheur et le malheur.
Et qu'est-ce qui a fait le grand rouleau où tout est écrit ?
Un capitaine, ami de mon capitaine, aurait bien donné un petit écu pour le savoir. Lui n'aurait pas donné une obole, ni moi non plus. Car à quoi cela me servirait-il ? En éviterais-je pour cela le trou où je dois aller me casser le cou ?
Je crois que oui.
Moi, je crois que non. Car il faudrait qu'il y eût une ligne fausse sur le grand rouleau qui contient vérité, qui ne contient que vérité et qui contient toute vérité. Il serait écrit sur le grand rouleau « Jacques se cassera le cou tel jour ». Et Jacques ne se casserait pas le cou. Concevez-vous que cela se puisse, quel que soit l'auteur du grand rouleau ? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mon capitaine croyait que la prudence est une supposition dans laquelle l'expérience nous autorise à regarder les circonstances où nous nous trouvons comme cause de certains effets à espérer ou à craindre pour l'avenir. Et tu entendais quelque chose à cela ? Assurément, peu à peu je m'étais fait à sa langue. Mais, disait-il, qui peut se vanter d'avoir assez d'expérience ? Celui qui s'est flatté d'en être le mieux pourvu n'a-t-il jamais été dupe ? Et puis, y a-t-il un homme capable d'apprécier juste les circonstances où il se trouve ? Le calcul qui se fait dans nos têtes et celui qui est arrêté sur le registre d'en haut sont deux calculs bien différents. Est-ce nous qui menons le destin ou bien est-ce le destin qui nous mène ? Combien de projets sagement concertés ont manqué et combien manqueront ? Combien de projets insensés ont réussi et combien réussiront ? C'est ce que mon capitaine me répétait après la prise de Bergzoom et celle du port Mahon. Il ajoutait que la prudence ne nous assurait point un bon succès, mais qu'elle nous consolait et nous excusait d'un mauvais. Aussi dormait-il la veille d'une action sous sa tente, comme dans sa garnison, et allait-il au feu comme au bal. C'est bien de lui que vous seriez écrié « Quel diable d'homme !»
Comme ils en étaient là, ils entendirent à quelque distance derrière eux du bruit et des cris. Ils retournèrent la tête et virent une troupe d'hommes armés de gaules et de fourches qui s'avançaient vers eux à toutes jambes. Vous allez croire que c'étaient les gens de l'auberge, leurs valets, leurs brigands dont nous avons parlé. Vous allez croire que, le matin, on avait enfoncé leurs portes faute de clés et que ces brigands s'étaient imaginés que nos deux voyageurs avaient décampé avec leurs dépouilles. Jacques le crut, et il disait entre ses dents « Maudites soient les clés, la fantaisie ou la raison qui me les fit emporter. Maudite soit la prudence !» etc., etc. Vous allez croire que cette petite armée tombera sur Jacques et son maître, qu'il y aura une action sanglante, des coups de bâton donnés, des coups de pistolet tirés, et il ne tiendrait qu'à moi que tout cela n'arrivât. Mais adieu la vérité de l'histoire, adieu le récit des amours de Jacques. Nos deux voyageurs n'étaient point suivis. J'ignore ce qui se passa dans l'auberge après leur départ, mais ils continuèrent leur route, allant toujours sans savoir où ils étaient, quoiqu'ils sussent à peu près où ils voulaient aller, trompant l'ennui et la fatigue par le silence et le bavardage, comme c'est l'usage de ceux qui marchent et quelquefois de ceux qui sont assis. Il est bien évident que je ne fais pas un roman, puisque je néglige ce qu'un romancier ne manquerait pas d'employer. Celui qui prendrait ce que j'écris pour la vérité serait peut-être moins dans l'erreur que celui qu'il prendrait pour une fable. Cette fois-ci, ce fut le maître qui parla le premier et qui débuta par le refrain accoutumé « Eh bien, Jacques, l'histoire de tes amours ?»« Je ne sais où j'en étais. J'ai été si souvent interrompu que je ferais tout aussi bien de recommencer. » « Non, non, non. » Revenu de ta défaillance à la porte de la chaumière, tu te trouvas dans un lit entouré des gens qui rhabitaient. Fort bien, fort bien. La chose la plus pressée était d'avoir un chirurgien. Il n'y en avait pas plus d'une lieue à la ronde. Le bonhomme fit monter à cheval un de ses enfants et l'envoya au lieu le moins éloigné. Cependant, la bonne femme avait fait chauffer du gros vin, déchiré une vieille chemise de son mari et mon genou fut étuvé, couvert de compresses et enveloppé de linge. On mit quelques morceaux de sucre enlevés aux fourmis dans une portion du vin qui avait servi à mon pansement, et je l'avalai. Ensuite, on m'exhorta à prendre patience. Il était tard. Ces gens se mirent à table
et soupèrent. Voilà le souper fini. Cependant, l'enfant ne revenait pas, et point de chirurgien. Le père prit de l'humeur. C'était un homme naturellement chagrin. Il boudait sa femme, il ne trouvait rien à son gré. Il envoya durement coucher ses autres enfants. Sa femme s'assit sur un banc et prit sa quenouille. Lui allait et venait, et en allant et venant, il lui cherchait querelle surtout. Si t'avais été au moulin, comme je te l'avais dit, et il achevait la phrase en hochant la tête du côté de mon lit, on ira demain. C'est aujourd'hui qu'il fallait y aller, comme je te l'avais dit, et ces restes de paille qui sont encore sur la grange, qu'attends-tu pour les relever? On les relèvera demain. Ce que nous en avons tiré à sa fin, et tu aurais beaucoup mieux fait de les relever aujourd'hui, comme je te l'avais dit, et ce tas d'orge qui se gâte, je gage que tu n'as pas songé à le remuer. Les enfants l'ont fait. Il fallait le faire toi-même. Si tu avais été sur ton grenier, tu n'aurais pas été à la porte. Cependant, il arriva un chirurgien, puis un second, puis un troisième, avec le petit garçon de la chaumière.
Te voilà chirurgien comme Saint-Roch en chapeau, Jacques. Le premier était absent lorsque le petit garçon était arrivé chez lui, mais sa femme avait fait avertir le second et le troisième avait accompagné le petit garçon. « Eh, bonsoir, compère, vous voilà, » dit le premier aux deux autres. Ils avaient fait le plus de diligence possible, ils avaient chaud, ils étaient altérés. Et autour de la table, dont la nappe n'avait pas encore été ôtée. La femme descend à la cave, on remonte avec une bouteille, le mari grommelait entre ses dents. Hey, que diable faisait-elle à sa porte? On boit, on parle des maladies du canton, on entame l'énumération de ses pratiques. Je me plains, on me dit, dans un moment nous serons à vous. Après cette bouteille, on en demande une seconde, à compte sur mon traitement, puis une troisième, une quatrième, toujours à compte sur mon traitement. Et à chaque bouteille, le mari revenait à sa première exclamation, « Et que diable faisait-elle à sa porte ?» Quel parti un autre n'aurait-il pas tiré de ces trois chirurgiens, de leur conversation à la quatrième bouteille, de la multitude de leurs cures merveilleuses, de l'impatience de Jacques, de la mauvaise humeur de l'hôte, des propos de nos esculapes de campagne autour du genou de Jacques, de leurs différents avis, l'un prétendant que Jacques était mort si on ne se hâtait de lui couper la jambe, l'autre qu'il fallait extraire la balle et la portion du vêtement qu'il avait suivi et conserver la jambe à ce pauvre diable. Alors, cependant, on aurait vu Jacques assis sur son lit, regardant sa jambe en pitié et lui faisant ses derniers adieux comme on vit un de nos généraux entre Dufoir et Louis. Le troisième chirurgien aurait gobe mouché jusqu'à ce que la querelle se fût élevée entre eux et que les invectives en fût venues au geste. Je vous fais grâce de toutes ces choses que vous trouverez dans les romans, dans la comédie ancienne et dans la société. Lorsque j'entendis l'homme s'écrier de sa femme « Quel diable faisait-elle à la porte ?» je me rappelais l'Harpagon de Molière lorsqu'il dit de son fils « Qu'allait-il faire dans cette galère ?» et je conçus qu'il ne s'agissait pas seulement d'être vrai, mais qu'il fallait encore être plaisant et que c'était la raison pour laquelle on dirait à jamais « Qu'allait-il faire dans cette galère ?» et que le mot de mon paysan « Que faisait-elle à sa porte ?» se passerait en proverbe. Jacques n'en usa pas envers son maître avec la même réserve que je garde avec vous. Il n'obit pas la moindre circonstance au hasard de l'endormir une seconde fois. Si ce ne fut pas le plus habile, ce fut au moins le plus vigoureux des trois chirurgiens qui resta maître du patient.
N'allez-vous pas, me direz-vous, tirer des bistouris à nos yeux, couper des chairs, faire couler du sang et nous montrer une opération chirurgicale? À votre avis, cela ne sera-t-il pas de bon goût? Allons, passons encore l'opération chirurgicale, mais vous permettrez au moins à Jacques de dire à son maître comme il le fit « Ah, monsieur, c'est une terrible affaire que de s'arranger un genou fracassé !» et à son maître de lui répondre comme auparavant Alors donc, Jacques, tu te moques. Mais ce que je ne vous laisserai pas ignorer pour tout l'or du monde, c'est qu'à peine le maître de Jacques lui eut-il fait cette impertinente réponse, que son cheval bronche et s'abat, que son genou va s'appuyer rudement sur un caillou pointu, et que le voilà criant à tue-tête « Je suis mort, j'ai le genou cassé !» Quoique Jacques, la meilleure patte d'homme qu'on puisse imaginer, fût tendrement attaché à son maître, je voudrais bien savoir ce qui se passa au fond de son âme, sinon dans le premier moment, du moins lorsqu'il fut bien assuré que cette chute n'aurait point de suite fâcheuse, et s'il put se refuser à un léger mouvement de joie secrète d'un accident qui apprendrait à son maître ce que c'était qu'une blessure au genou. Une autre chose, lecteur, que je voudrais bien que vous me disiez, c'est si son maître n'eût pas mieux aimé être blessé, même un peu plus grièvement, ailleurs qu'au genou, ou s'il ne fut pas plus sensible à la honte qu'à la douleur. Lorsque le maître fut un peu revenu de sa chute et de son angoisse, il se remit en selle et appuya 5 ou 6 coups d'éperon à son cheval qui partit comme un éclair, autant en fit la monture de Jacques, car il y avait entre ces deux animaux la même intimité qu'entre leurs cavaliers, c'est-à-dire 2 paires d'habits. Lorsque les 2 chevaux essoufflés reprirent leur pas ordinaire, Jacques dit à son maître « Eh bien, monsieur, qu'en pensez-vous ? » « De quoi ? » ?»« De la blessure au genou ? » Ben, « je suis de ton avis, c'est une des plus cruelles. » « Au vôtre ? » « Non, non, au tien, au mien, enfin, à tous les genoux du monde. » « mon maître, vous n'y avez pas bien regardé. Croyez que nous ne plaignions jamais que nous. Quelle folie a, si je savais dire comme je sais penser. Mais il était écrit là-haut que j'aurais les choses dans ma tête et que les mots ne me viendraient pas. » Ici, Jacques s'embarrassa dans une métaphysique très subtile et peut-être très vraie. Il cherchait à faire concevoir à son maître que le mot « douleur » était sans idée et qu'il ne commençait à signifier quelque chose qu'au moment où il rappelait à notre mémoire une sensation que nous avions éprouvée. Son maître lui demanda s'il avait déjà accouché. « Non, répondit Jacques. Et crois-tu que ce soit une grande douleur que d'accoucher ? » ?»«
Assurément. Plains-tu les femmes en mal d'enfant ? » ?»« Ah, beaucoup. » »«
Tu plains donc quelquefois un autre que toi ?»«
Je plains ceux ou celles qui se tordent les bras, qui s'arrachent les cheveux, qui poussent des cris, parce que je sais par expérience qu'on ne fait pas cela sans souffrir, mais pour le mal propre à la femme qui accouche, je ne le plains pas. Je ne sais ce que c'est, Dieu merci, mais pour en revenir à une peine que nous connaissons tous deux, l'histoire de mon genou, qui est devenu le vôtre par votre chute. Non, Jacques, l'histoire de tes amours qui sont devenues miennes par mes chagrins passés. Ben voilà, pensée, un peu soulagée. Le chirurgien parti et mes autres tirés et couchés. Leur chambre s'était séparée de la mienne que par des planches à claire-voie sur lesquelles on avait collé du papier gris et sur ce papier quelques images enluminées. Je ne dormais pas et j'entendis la femme qui disait à son mari « « Laissez-moi, j'ai pas envie de rire, un pauvre malheureux qui se meurt à notre porte. »« Femme, tu me diras tout cela après. »« Non, cela ne sera pas. Si vous ne finissez pas, je me lève. Cela ne me ferait-il pas bien aise lorsque j'ai le cœur gros ?»« Oh, si tu te fais prier, tu t'en seras la dupe. » C'est pas pour se faire prier, mais c'est que vous êtes quelquefois d'un dur, c'est que, après une assez courte pause, le mari prit la parole et dit « La femme, convient donc à présent que, par une compassion déplacée, tu nous as mis dans un embarras dont il est presque impossible de se tirer. L'année est mauvaise, à peine pouvons-nous suffire à nos besoins et aux besoins de nos enfants. »
Le grain est d'une cherté, point de vin. Encore s'il en trouvait à travailler. Mais les riches se retranchent, les pauvres gens ne font rien. Pour une journée qu'on emploie, on en perd quatre. Personne ne paye ce qu'il doit. Les créanciers sont d'une âpreté qui désespère. Et voilà le moment que tu prends pour retirer ici un inconnu, un étranger qui y restera tant qu'il plaira à Dieu et aux chirurgiens, qui ne se pressera pas de le guérir, car les chirurgiens font durer les maladies les plus longtemps qu'ils peuvent, et qui n'a pas le sou, et qui doublera, triplera notre dépense. La femme, comment te défras-tu de cet homme? Parle donc, femme, dis-moi donc, quelle raison? Est-ce qu'on peut parler avec vous? Tu dis que j'ai de l'humeur, que je gronde. Et qui n'en aurait pas? Qui ne gronderait pas? Il y avait encore un peu de vin à la cave, Dieu sait le train dont il ira. Les chirurgiens en burent hier au soir, plus que nous et nos enfants n'aurions fait dans la semaine. Et le chirurgien qui ne viendra pas pour rien, comment tu peux penser qu'il paiera? Ouais, voilà qui est fort bien dit. Et parce qu'on est dans la misère, vous me faites un enfant comme si vous n'en avions pas assez. Oh que non! Oh que si! Je suis sûr que je vais être grosse. Voilà, comme tu dis toutes les fois. Et cela n'a jamais manqué quand l'oreille me démange après. Et j'y sens une démangeaison comme jamais. Ton oreille ne sait ce qu'elle dit. Ne me touche pas. Laisse-la mon oreille. Laisse donc l'homme. Est-ce que tu fous? Et tu t'en trouveras mal. Non, non. Cela ne m'est pas arrivé depuis le soir de la Saint-Jean. Tu feras si bien que... Et puis dans un mois ici, tu me bouderas, comme si c'était de ma faute. Non, non. Et dans 9 mois d'ici, ce sera bien pis. Non, non. C'est toi qui l'auras voulu. Oui, oui. Tu t'en souviendras. Tu ne diras pas comme tu as dit toutes les autres fois. Oui, oui. Et puis voilà que de non, non, oui, oui... Cet homme enragé contre sa femme d'avoir cédé à un sentiment d'humanité, le maître. C'est la réflexion que je faisais. Jacques, il est certain que ce mari n'est pas trop conséquent, mais il était jeune et sa femme jolie. On ne fait jamais tant d'enfants que dans les temps de misère. Rien ne peuple comme les gueux. Un enfant de plus n'est rien pour eux. C'est la charité qui les nourrit. Et puis, c'est le seul plaisir qui ne coûte rien. On se console pendant la nuit, sans frais des calamités du jour. Cependant, les réflexions de cet homme n'en étaient pas moins justes. Tandis que je me disais cela moi-même, je ressentis une douleur violente au genou et je m'écriais « Oh, le genou !» Et le mari s'écria « Oh, ma femme !» Et la femme s'écria, « Oh, mon homme, cet homme qui est là !» Eh bien, cet homme, il nous aura peut-être entendu. Qu'il l'ait entendu, demain, je n'oserai le regarder. Et pourquoi? Est-ce que tu n'es pas ma femme? Est-ce que je ne suis pas ton mari? Est-ce qu'un mari a une femme? Et est-ce qu'une femme a un mari pour rien? Eh bien, qu'est-ce? Mon oreille. Eh bien, ton oreille, c'est pique jamais. Dors, cela passera. Oh, je ne saurais, oh, l'oreille. L'oreille, l'oreille, cela est bien aisé à dire. Je ne vous dirai point ce qui se passait entre eux, mais la femme, après avoir répété l'oreille, l'oreille, plusieurs fois de suite à voix basse et précipitée, finit par balbutier un syllabe interrompu, l'oreille. Et à la suite de cette oreille, je ne sais quoi, qui, joint au silence qui succéda, me fit imaginer que son mal d'oreille s'était apaisé d'une ou d'autre façon, il n'importe. Cela me fit plaisir. Et à elle donc.
Le maître, Jacques, mettez la main sur la conscience. Et jurez-moi que ce n'est pas de cette femme que vous devîntes amoureux.
Je le jure. Tant pis pour toi. Oh, c'est tant pis ou tant mieux. Vous croyez apparemment que les femmes qui ont une oreille comme la sienne écoutent volontiers. Je crois que cela est écrit là-haut. Je crois qu'il est écrit à la suite qu'elles n'écoutent pas longtemps le même et qu'elles sont tant soit peu sujettes à prêter l'oreille à un autre. Cela se pourrait. Et les voilà embarqués dans une querelle interminable sur les femmes, l'un prétendant qu'elles étaient bonnes, l'autre méchantes, et ils avaient tous deux raison, l'un sotte, l'autre pleine d'esprit, et ils avaient tous deux raison, l'un fausse, l'autre vraie, et ils avaient tous deux raison, l'un avare, l'autre libéral, et ils avaient tous deux raison, l'un belle, l'autre laide, et ils avaient tous deux raison. L'un bavarde, l'autre discrète, l'un franche, l'autre dissimulée, l'un ignorante, l'autre éclairée, l'un sage, l'autre libertine, l'un folle, l'autre sensée, l'un grande, l'autre petite. Et ils avaient tous deux raison. En suivant cette dispute, sur laquelle ils auraient pu faire le tour du monde sans déparler un moment et sans s'accorder, ils furent accueillis par un orage qui les contraignit de s'acheminer. Où, lecteur, vous êtes d'une curiosité bien incommode. Et que diable cela vous fait-il? Quand je vous aurais dit que c'est à Pontoise ou à Saint-Germain, à Notre-Dame-de-Lorette ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, en serez-vous plus avancé? Si vous insistez, je vous dirais qu'ils s'acheminèrent vers... Oui, pourquoi pas. Vers un château immense... un frontispice duquel on lisait « Je n'appartiens à personne et j'appartiens à tout le monde. Vous y étiez avant que d'y entrer et vous y serez encore quand vous en sortirez. » Entrèrent-ils dans ce château? Non, car l'inscription était fausse ou ils y étaient avant que d'y entrer. Mais du moins ils en sortirent. Non, car l'inscription était fausse. Où ils y étaient encore quand ils en furent sortis? Mais que firent-ils là? Jacques disait ce qui était écrit là-haut et son maître ce qu'il voulut, et ils avaient tous deux raison. Mais quelle compagnie y trouvèrent-ils mêlée? Et qui disait-on? Quelques vérités et beaucoup de mensonges. Mais y avait-il des gens d'esprit? Ou n'y en avait-il pas? Et de maudits questionnaires confiés comme la peste. Ce qui choqua le plus Jacques et son maître pendant tout le temps qu'ils s'y promenèrent. On s'y promena donc. On ne faisait que cela quand on n'était pas assis ou couché. Ce qui choqua le plus Jacques et son maître, ce fut d'y trouver une vingtaine d'audacieux qui s'étaient emparés des plus superbes appartements où ils se trouvaient presque toujours à l'endroit, qui prétendaient, contre le droit commun et le vrai sens de l'inscription, que le château leur avait été légué en toute propriété, et qui, à l'aide d'un certain nombre de couillons à leur gage, l'avaient persuadé à un grand nombre d'autres couillons à leur gage, tout prêts pour une petite pièce de monnaie à prendre ou à assassiner le premier qui aurait osé les contredire. Cependant, au temps de Jacques et de son maître, on l'osait quelquefois. Impunément, c'est selon. Vous allez dire que je m'amuse et que ne sachant plus que faire de mes voyageurs, je me jette dans l'allégorie, la ressource ordinaire des esprits stériles. Je vous sacrifierai mon allégorie et toutes les richesses que j'en pouvais tirer, je conviendrai de tout ce qu'il vous plaira, mais à condition... que vous ne me tracasserez point sur ce dernier gîte de Jacques et de son maître. Soit qu'ils aient atteint une ville et qu'ils aient couché chez des filles, qu'ils aient passé la nuit chez un vieil ami qui les fait à de son mieux, qu'ils se soient réfugiés chez des moines mendiants où ils furent mal logés et mal repus pour l'amour de Dieu, qu'ils aient été accueillis dans la maison d'un grand où ils manquèrent de tout ce qui est nécessaire, au milieu de tout ce qui est superflu, qu'ils soient sortis le matin d'une grande auberge où on leur fit payer très chèrement un mauvais souper servi dans des plats d'argent et une nuit passée entre des rideaux de damas et des draps humides et repliés, qu'ils aient reçu l'hospitalité chez un curé de village à portion congrue, qui courut mettre à contribution les basse-cours de ses paroissiens pour avoir une omelette et une fricassée de poulet, ou qu'ils se soient enivrés d'excellent vin et fait grande chair et pris une indigestion bien conditionnée dans une riche abbaye de Bernardin, car quoique tout cela vous paraisse également possible, Jacques n'était pas de cet avis. Il n'y avait réellement de possible que la chose qui était écrite en haut. Ce qu'il y a de vrai, c'est que, de quelque endroit qu'il vous plaise de les mettre en route, ils n'eurent pas fait 20 pas que le maître dit à Jacques, après avoir toutefois, selon son usage, pris sa prise de tabac, « Eh bien, Jacques, l'histoire de tes amours, n'allez-vous pas, me direz-vous, tirer des bistouris à nos yeux, couper des chairs, faire couler du sang et nous montrer une opération chirurgicale? À votre avis, cela ne sera-t-il pas de bon goût? Allons, passons encore l'opération chirurgicale, mais vous permettrez au moins à Jacques de dire à son maître comme il le fit « Ah, monsieur, c'est une terrible affaire que de s'arranger un genou fracassé !» et à son maître de lui répondre comme auparavant « Allons donc, Jacques, tu te moques, mais ce que je ne vous laisserai pas ignorer pour tout l'heure du monde, c'est qu'à peine le maître de Jacques lui eut-il fait cette impertinente réponse que son cheval bronche et s'abat, que son genou va s'appuyer rudement sur un caillou pointu et que le voilà criant à tue-tête « Je suis mort, j'ai le genou cassé !» Quoique Jacques, la meilleure patte d'homme qu'on puisse imaginer, fût tendrement attaché à son maître, je voudrais bien savoir ce qui se passa au fond de son âme, sinon dans le premier moment, du moins lorsqu'il fut bien assuré que cette chute n'aurait point de suite fâcheuse, et s'il put se refuser à un léger mouvement de joie secrète d'un accident qui apprendrait à son maître ce que c'était qu'une blessure au genou. Une autre chose, lecteur, que je voudrais bien que vous me disiez, c'est si son maître n'eût pas mieux aimé être blessé, même un peu plus grièvement, ailleurs qu'au genou, ou s'il ne fut pas plus sensible à la honte qu'à la douleur. Lorsque le maître fut un peu revenu de sa chute et de son angoisse, il se remit en selle et appuya 5 ou 6 coups d'éperon à son cheval qui partit comme un éclair, autant en fit la monture de Jacques, car il y avait entre ces deux animaux la même intimité qu'entre leurs cavaliers, c'est-à-dire 2 paires d'habits. Lorsque les 2 chevaux essoufflés reprirent leur pas ordinaire, Jacques dit à son maître « Eh bien, monsieur, qu'en pensez-vous ? De quoi ? De la blessure au genou ? Ben, je suis de ton avis, c'est une des plus cruelles. Au vôtre ? Non, au tien, au mien, enfin, à tous les genoux du monde. Mon maître, vous n'y avez pas bien regardé. Croyez que nous ne plaignions jamais que nous ? Quelle folie a ! Si je savais dire comme je sais penser. Mais il était écrit là-haut que j'aurais les choses dans ma tête et que les mots ne me viendraient pas. » Ici, Jacques s'embarrassa dans une métaphysique très subtile et peut-être très vraie. Il cherchait à faire concevoir à son maître que le mot « douleur » était sans idée et qu'il ne commençait à signifier quelque chose qu'au moment où il rappelait à notre mémoire une sensation que nous avions éprouvée. Son maître lui demanda s'il avait déjà accouché. « Non, répondit Jacques. Et crois-tu que ce soit une grande douleur que d'accoucher ?
Assurément.
Plains-tu les femmes en mal d'enfant ?
Ah, beaucoup.
Tu plains donc quelquefois un autre que toi ?
Je plains ceux ou celles qui se tordent les bras, qui s'arrachent les cheveux, qui poussent des cris, parce que je sais par expérience qu'on ne fait pas cela sans souffrir, mais pour le mal propre à la femme qui accouche, je ne le plains pas. Je ne sais ce que c'est, Dieu merci, mais pour en revenir à une peine que nous connaissons tous deux, l'histoire de mon genou, qui est devenu
le vôtre par votre chute. Non, Jacques, l'histoire de tes amours qui sont devenues miennes par mes chagrins passés. Me voilà pensé, un peu soulagé. Le chirurgien parti et mes autres tirés et couchés. Leur chambre s'était séparée de la mienne que par des planches à claire-voie sur lesquelles on avait collé du papier gris et sur ce papier quelques images enluminées. Je ne dormais pas et j'entendis la femme qui disait à son mari « Laissez-moi, j'ai pas envie de rire, un pauvre malheureux qui se meurt à notre porte. » « Femme, tu me diras tout cela après. » « Non, cela ne sera pas. Si vous ne finissez pas, je me lève. Cela ne me ferait-il pas bien aise lorsque j'ai le cœur gros ?»« Oh, si tu te fais prier, tu t'en seras la dupe. »« Ce n'est pas pour se faire prier, mais c'est que vous êtes quelquefois d'un dur. C'est que, après une assez courte pause, le mari prit la parole et dit... « La femme, convient donc à présent que, par une compassion déplacée, tu nous as mis dans un embarras dont il est presque impossible de se tirer. L'année est mauvaise. À peine pouvons-nous suffire à nos besoins et aux besoins de nos enfants. Le grain est d'une cherté, point de vin. Encore s'il en trouvait à travailler. Mais les riches se retranchent, les pauvres gens ne font rien. » Pour une journée qu'on emploie, on en perd quatre. Personne ne paye ce qu'il doit. Les créanciers sont d'une âpreté qui désespère. Et voilà le moment que tu prends pour retirer ici un inconnu, un étranger qui y restera tant qu'il plaira à Dieu et au chirurgien, qui ne se pressera pas de le guérir, car les chirurgiens font durer les maladies les plus longtemps qu'ils peuvent, et qui n'a pas le sou, et qui doublera, triplera notre dépense. La femme, comment te défras-tu de cet homme? Parle donc, femme, dis-moi donc, quelle raison? Est-ce qu'on peut parler avec vous? Tu dis que j'ai de l'humeur, que je gronde, et qui n'en aurait pas? Qui ne gronderait pas? Il y avait encore un peu de vin à la cave, Dieu sait le train dont il ira. Les chirurgiens en burent hier au soir, plus que nous et nos enfants n'aurions fait dans la semaine. Et le chirurgien qui ne viendra pas pour rien, comment tu peux penser qu'il paiera? Ouais, voilà qui est fort bien dit. Et parce qu'on est dans la misère, vous me faites un enfant comme si vous n'en avions pas assez. Oh que non! Oh que si! Je suis sûr que je vais être grosse. Voilà, comme tu dis toutes les fois. Et cela n'a jamais manqué quand l'oreille me démange après. Et j'y sens une démangeaison comme jamais. Ton oreille ne sait ce qu'elle dit. Ne me touche pas. Laisse-la mon oreille. Laisse donc l'homme. Est-ce que tu es fou? Et tu t'en trouveras mal. Non, non. Cela ne m'est pas arrivé depuis le soir de la Saint-Jean. Tu feras si bien que... Et puis dans un mois ici, tu me bouderas, comme si c'était de ma faute. Non, non. Et dans 9 mois d'ici, ce sera bien pis. Non, non. C'est toi qui l'auras voulu. Oui, oui. Tu t'en souviendras. Tu ne diras pas comme tu as dit toutes les autres fois. Oui, oui. Et puis voilà que de non, non, oui, oui... Cet homme enragé contre sa femme d'avoir cédé à un sentiment d'humanité, le maître. C'est la réflexion que je faisais. Jacques, il est certain que ce mari n'est pas trop conséquent, mais il était jeune et sa femme jolie. On ne fait jamais tant d'enfants que dans les temps de misère. Rien ne peuple comme les gueux. Un enfant de plus n'est rien pour eux. C'est la charité qui les nourrit. Et puis, c'est le seul plaisir qui ne coûte rien. On se console pendant la nuit, sans frais des calamités du jour. Cependant, les réflexions de cet homme n'en étaient pas moins justes. Tandis que je me disais cela moi-même, je ressentis une douleur violente au genou et je m'écriais « Oh, le genou !» Et le mari s'écria « Oh, ma femme !» Et la femme s'écria, « Oh, mon homme, cet homme qui est là !» Eh bien, cet homme, il nous sera peut-être entendu. Qu'il est entendu, demain, je l'oserai le regarder. Et pourquoi ? Est-ce que tu n'es pas ma femme ? Est-ce que je ne suis pas ton mari ? Est-ce qu'un mari a une femme ? Et est-ce qu'une femme a un mari pour rien ? Eh bien, qu'est-ce ? Mon oreille. Eh bien, ton oreille, c'est pique jamais. Dors, cela passera. Oh, je ne saurais, l'oreille. L'oreille, cela est bien aisé à dire. Je ne vous dirai point ce qui se passait entre eux, mais la femme, après avoir répété l'oreille, plusieurs fois de suite à voix basse et précipitée, finit par balbutier à syllabes interrompues l'oreille, et à la suite de cette oreille, je ne sais quoi, qui, joint au silence qui succéda, me fit imaginer que son mal d'oreille s'était apaisé d'une ou d'autre façon, il n'importe. Cela me fit plaisir. Et à elle, donc.
Le maître. Jacques, mettez la main sur la conscience et jurez-moi que ce n'est pas de cette femme que vous devîntes amoureux.
Je le jure.
Tant pis pour toi.
Oh, c'est tant pis ou tant mieux. Vous croyez apparemment que les femmes qui ont une oreille comme la sienne écoutent volontiers.
Je crois que cela est écrit là-haut.
Je crois qu'il est écrit à la suite qu'elles n'écoutent pas longtemps le même et qu'elles sont en soit peu sujettes à prêter l'oreille à un autre.
Cela se pourrait. Et les voilà embarqués dans une querelle interminable sur les femmes, l'un prétendant qu'elles étaient bonnes, l'autre méchantes, et ils avaient tous deux raison, l'un sotte, l'autre pleine d'esprit, et ils avaient tous deux raison, l'un fausse, l'autre vraie, et ils avaient tous deux raison, l'un avare, l'autre libéral, et ils avaient tous deux raison, l'un belle, l'autre laide, et ils avaient tous deux raison. L'un bavarde, l'autre discrète, l'un franche, l'autre dissimulée, l'un ignorante, l'autre éclairée, l'un sage, l'autre libertine, l'un folle, l'autre sensée, l'un grande, l'autre petite, et ils avaient tous deux raison. En suivant cette dispute, sur laquelle ils auraient pu faire le tour du monde sans déparler un moment et sans s'accorder, ils furent accueillis par un orage qui les contraignit de s'acheminer. Où, lecteur, vous êtes d'une curiosité bien incommode, et que diable cela vous fait-il ? Quand je vous aurais dit que c'est à Pontoise ou à Saint-Germain, à Notre-Dame-de-Lorette ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, en serez-vous plus avancé ? Si vous insistez, je vous dirai qu'ils s'acheminèrent vers, oui, pourquoi pas, vers un château immense, un frontispice duquel on lisait « Je n'appartiens à personne et j'appartiens à tout le monde. Vous y étiez avant que d'y entrer et vous y serez encore quand vous en sortirez. » Entrèrent-ils dans ce château ? Non, car l'inscription était fausse ou ils y étaient avant que d'y entrer. Mais du moins ils en sortirent. Non, car l'inscription était fausse. Où ils y étaient encore quand ils en furent sortis. Mais que firent-ils là ? Jacques disait ce qui était écrit là-haut et son maître ce qu'il voulut, et ils avaient tous deux raison. Mais quelle compagnie y trouvèrent-ils mêlée ? Et qui disait-on ? Quelques vérités et beaucoup de mensonges. Mais y avait-il des gens d'esprit ? Ou n'y en avait-il pas ? Et de maudits questionnaires confiés comme la peste. Ce qui choqua le plus Jacques et son maître pendant tout le temps qu'ils s'y promenèrent. On s'y promena donc. On ne faisait que cela quand on n'était pas assis ou couché. Ce qui choqua le plus Jacques et son maître, ce fut d'y trouver une vingtaine d'audacieux qui s'étaient emparés des plus superbes appartements où ils se trouvaient presque toujours à l'endroit, qui prétendait, contre le droit commun et le vrai sens de l'inscription,
que le château leur avait été légué en toute propriété et qui, à l'aide d'un certain nombre de couillons à leur gage, l'avait persuadé à un grand nombre d'autres couillons à leur gage, tout prêt pour une petite pièce de monnaie à prendre ou à assassiner le premier qui aurait osé les contredire. Cependant, au temps de Jacques et de son maître, on l'osait quelquefois. Impunément, c'est selon. Vous allez dire que je m'amuse et que ne sachant plus que faire de mes voyageurs, je me jette dans l'allégorie, la ressource ordinaire des esprits stériles. Je vous sacrifierai mon allégorie et toutes les richesses que j'en pouvais tirer, je conviendrai de tout ce qu'il vous plaira, mais à condition que vous ne me tracasserez point sur ce dernier gîte de Jacques et de son maître. Soit qu'ils aient atteint une ville et qu'ils aient couché chez des filles, qu'ils aient passé la nuit chez un vieil ami qui les fait de son mieux, qu'ils se soient réfugiés chez des moines mendiants où ils furent mal logés et mal repus pour l'amour de Dieu, qu'ils aient été accueillis dans la maison d'un grand où ils manquèrent de tout ce qui est nécessaire, au milieu de tout ce qui est superflu, qu'ils soient sortis le matin d'une grande auberge où on leur fit payer très chèrement un mauvais souper servi dans des plats d'argent et une nuit passée entre des rideaux de damas et des draps humides et repliés, qu'ils aient reçu l'hospitalité chez un curé de village à portions congrues qui courut mettre à contribution les basse-cours de ses paroissiens pour avoir une omelette et une fricassée de poulet, ou qu'ils se soient enivrés d'excellent vin et fait grande chair et pris une indigestion bien conditionnée dans une riche abbaye de Bernardin, car quoique tout cela vous paraisse également possible, Jacques n'était pas de cet avis. Il n'y avait réellement de possible que la chose qui était écrite en haut. Ce qu'il y a de vrai, c'est que, de quelque endroit qu'il vous plaise de les mettre en route, ils n'eurent pas fait 20 pas que le maître dit à Jacques, après avoir toutefois, selon son usage, pris sa prise de tabac, « Eh bien, Jacques, l'histoire de tes amours,